You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 10 octobre 2019. La Turquie a lancé une offensive militaire contre les Kurdes vivant au nord de la Syrie, une initiative qui est dénoncée par l'ensemble de la communauté internationale. En Allemagne, une attaque d'un déséquilibré dans une synagogue a causé la mort de deux personnes. Pour la chancelière Angela Merkel, il s'agit là d'un attentat terroriste. Et en Australie, le gouvernement refuse de remonter le montant de l'allocation New Start, dont les tarifs n'ont pas été revus depuis 25 ans. Et on commence donc ce journal en prenant la direction de la Turquie qui a lancé hier une offensive militaire au nord de la Syrie et qui vise des militants kurdes. On fait le point avec la correspondante de Radio France Internationale à Istanbul, Anne Andloer.
À 16h locale, le président turc a mis ses menaces à exécution lorsque des avions de chasse ont commencé à pilonner la région de Ras Alayn sur une profondeur d'au moins 30 km en territoire syrien. Peu de temps après, des obus bombardaient Tal Abyad, 120 km plus à l'ouest. Ces deux localités du nord-est syrien sont considérées comme les limites probables de la première étape de l'opération turque. Un peu plus tôt dans l'après-midi, on a aussi vu l'armée turque retirer des blocs du mur de béton érigé ces dernières années à la frontière turco-syrienne. Prélude à l'entrée en Syrie dans un deuxième temps, de chars et donc de soldats turcs, mais pas seulement. Comme lors de ses deux précédentes incursions en Syrie, l'armée turque s'appuie au sol sur des supplétifs issus de l'opposition syrienne. La presse locale avance le chiffre invérifiable de près de 14 000 hommes prêts à franchir la frontière. Quant aux forces kurdes, leur riposte n'a pas tardé. Les médias locaux rapportent la chute d'au moins 6 roquettes sur Nusaybin et de 2 obus de mortier sur Ceylanpınar, deux villes turques situées à la frontière, a priori sans faire de victimes. Anne Andloer, Istanbul, RFI.
Et un point rapide maintenant sur le Brexit. Alors qu'à Bruxelles, le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, estime que les propositions du Royaume-Uni ne permettent pas d'envisager un accord, Boris Johnson, lui, considère pour sa part qu'il soumet des propositions constructives et raisonnables. Lors de la conférence annuelle du Parti conservateur dont il est membre, il a réaffirmé son intention de créer une relation positive et de confiance avec l'Union européenne et plus particulièrement de ne rien mettre en œuvre qui pourrait raviver les tensions en Irlande du Nord.
We will, under no circumstances, have checks at or near the border in Northern Ireland. We will respect the peace process and the Good Friday Agreement. And, at the same time, we will allow the UK, whole and entire, to withdraw from the EU with control over our own trade policy from the start.
Et émotion en Allemagne où mercredi, un homme d'une vingtaine d'années a pénétré dans une synagogue en pleine célébration de Yom Kippour et a attaqué au couteau les fidèles qui s'y recueillaient. Le même déséquilibré s'en est ensuite pris à des ressortissants turcs, causant au total la mort de deux personnes. Sur place, dans la ville de Halle, où s'est produit ce drame, Pascal Thibault, le correspondant de RFI.
L'homme qui agit seul était, d'après les médias, un Allemand de 27 ans. Habillé d'une tenue militaire, lourdement armé et coiffé d'un casque, il a tout d'abord voulu pénétrer dans la synagogue de la ville où se trouvaient environ 80 personnes durant la fête juive de Yom Kippour. Une passante a été tuée près de là. L'homme s'en est ensuite pris à un petit restaurant turc de kebab. Il a d'abord lancé une grenade qui a explosé contre la porte avant de tirer à l'intérieur, tuant une deuxième personne. L'homme a ensuite pris la fuite en voiture, quittant Halle avant d'être interpellé lors d'un accident. Plusieurs blessés, dont deux graves, sont à déplorer. L'agresseur a filmé ses actes et publié la vidéo sur Internet, ce qui rappelle le mode opératoire d'autres attaques. L'homme, crâne rasé, le visage juvénile, se lance dans une diatribe antisémite. Il affirme en anglais notamment que l'Holocauste n'a jamais existé et considère que les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes. Cette attaque a suscité une émotion importante en Allemagne. La chancelière Merkel a dénoncé un attentat et s'est rendue dans la soirée en signe de solidarité à la grande synagogue de Berlin. Cette attaque intervient quelques mois après le meurtre en Hesse de Walter Lübcke, un élu pro-migrant du parti conservateur d'Angela Merkel. L'attaque d'aujourd'hui à Halle semble confirmer les analyses des experts pour lesquels le danger d'un terrorisme d'extrême droite grandit en Allemagne. Pascal Thibault, Halle, RFI.
Et en Tunisie, l'homme d'affaires et candidat à l'élection présidentielle, Nabil Karoui, a été libéré par la Cour de cassation. Cet homme très influent dans le monde des médias en Tunisie va donc pouvoir se présenter en homme libre face à Kais Saied pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui aura lieu ce dimanche, le 13 octobre. Binta Diagne, la correspondante de RFI, est allée demander aux habitants de la ville de Sidi Bouzid ce qu'ils en pensent.
C'est une nouvelle, bonne nouvelle. C'est pour les élections qu'il passe bien et pour même l'image devant tout le monde, que les élections qui passent dans les normes de la démocratie, normalement.
Nabil Halien libre. Maintenant il est libre, Nabil. Je suis content, très content.
Je ne suis pas avec Nabil Karoui sur le même chemin politique et sur le même chemin idéologique, mais quand même, la libération de Nabil Karoui, il faut être libre pour que la compétition doit être claire et nette.
En tant que militant de Kais Saied, je refuse d'avoir un concurrent en prison. Ce serait un duel présidentiel inégal. Le vrai prisonnier médiatique, c'est Kais Saied, parce qu'il n'a pas le soutien d'une chaîne de télévision. Depuis la révolution, il est apparu seulement dans les journaux télévisés.
Allez, maintenant, on va parler un peu de l'Australie où la décision de Scott Morrison d'accepter de venir en aide à Donald Trump dans le cadre de la contre-enquête sur les possibles ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine de 2016 continue de faire jaser. Mais le Premier ministre australien a maintenu et même défendu sa position tout en refusant de rendre publique la transcription de sa conversation avec le président américain, et ce malgré les demandes insistantes des travaillistes. Sur Sky News, Scott Morrison a expliqué tout simplement qu'il ne voyait pas où était le problème.
All that simply happened here was the US attorney is undertaking an official investigation, and Australia had already stated in May that we would cooperate with such an investigation.
Et puis, les pressions sur le gouvernement australien ne viennent pas que de l'opposition, mais aussi des Nations Unies. L'ONU, pour sa part, appelle Canberra à libérer la famille de demandeurs d'asile tamouls qui sont actuellement retenus sur l'île de Christmas. Dans un courrier adressé au département de l'immigration, l'ONU demande à ce que la rétention de cette famille soit terminée dans un délai maximum de 30 jours. Une intervention qui fait plaisir à Angela Fredericks, qui est une amie de cette famille.
I'm feeling very relieved, I guess, just in terms of that acknowledgement that, you know, detention, which we know, detention is no place for children and for families.
Mauvaise nouvelle pour les chômeurs australiens. Anne Ruston, la ministre des services sociaux, a confirmé qu'elle ne relèverait pas le montant de l'allocation chômage, qui s'appelle ici New Start. Une annonce qui intervient après de très nombreux appels à relever le montant de cette allocation, qui n'a quasiment pas bougé depuis 25 ans. Anne Ruston a expliqué sur Sky News qu'elle préférait se concentrer sur la création d'emplois.
There are lots of really innovative ways that we can make sure that we get people back into work, because just constantly spending more money and not getting any better result is not the right thing for us to be doing. We need to make sure that we investigate every possible way that we can start getting a better result for getting people back into work.
Un mot sur les finances maintenant, puisque les quatre grandes banques australiennes, les Big Four, ont désormais toutes annoncé qu'elles ne répercuteraient pas dans sa totalité la baisse des taux d'intérêt décidée la semaine dernière par la Banque centrale australienne à ses clients. Alors ces fameux taux d'intérêt sont désormais à leur plus bas niveau historique, à 0,75%. Mais les clients de ces grandes banques n'en profiteront pas à plein, puisque par exemple, Westpac ne va abaisser le taux de ses prêts immobiliers que de 15 points de base au lieu de 25, et ANZ seulement de 14 points. C'est pareil à vrai dire pour les clients de Commonwealth qui ne profiteront que d'une baisse de 0,13%, et ceux de NAB pour qui le taux de leurs prêts ne reculera que de 0,15%. Allez, un mot de sport maintenant, puisqu'on vient d'apprendre que la rencontre prévue demain entre la France et l'Angleterre à la Coupe du Monde de rugby au Japon a été annulée pour cause de typhon. Le match n'est donc pas reporté, mais bel et bien annulé et automatiquement comptabilisé comme un match nul. Et puis on prend maintenant la direction de la Chine, un pays devenu récemment l'un des plus grands fans du monde de basketball et plus particulièrement du championnat de NBA. mais les matchs de gala qui étaient prévus à Shanghai et à Shenzhen ont été annulés. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le patron de l'équipe des Houston Rockets a affiché il y a quelques jours sur Twitter son soutien aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong, ce qui n'a bien sûr pas plu du tout au pouvoir à Pékin. On va donc se rendre à Shanghai pour faire le point sur la situation avec le correspondant de RFI, Stéphane Lagarde.
Avant de devenir un enjeu politique, la NBA est d'abord une affaire de cœur et de gros sous. En Chine, un peu à l'image de ces affiches géantes qui ont été décollées du centre de Shanghai, suite à la polémique, les paniers Made in USA pèsent lourd. Pour donner une idée de l'engouement, les billets pour les matchs préparatoires entre les Lakers de Los Angeles et les Nets de Brooklyn, à Shenzhen et Shanghai, s'échangeaient au marché noir ce mercredi entre 250 et jusqu'à 6000 euros. Des légions de supporters, notamment pour les Houston Rockets, qui subissent aujourd'hui la foudre des internautes. La franchise texane a accueilli la star locale du basket en 2002, le géant Yao Ming, qui du haut de ses 2m29 continue d'incarner la fierté chinoise. Voilà pourquoi le basket américain tremble quand Taobao et les autres plateformes de vente en ligne cessent de distribuer les produits dérivés de la NBA. Plus grave, Tencent, le média numérique partenaire de l'association américaine, a également annoncé la suspension de ses retransmissions. Quand on sait que le dernier contrat signé entre les deux parties est estimé à 1,5 milliard de dollars, comme disent les Américains, Houston, nous avons un problème. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Bon, et on rappelle au passage que les fans de NBA qui se trouvent ici en Australie, eh bien, ils peuvent suivre le championnat américain de basketball gratuitement sur SBS, qui est le diffuseur officiel de la NBA en Australie. Et puis, pour terminer ce journal, on va jeter un œil rapide sur la météo de ce jeudi. Il y a des nuages à Perth où il fait 25 degrés. 22 degrés à Adélaïde, qui se trouve dans les mêmes conditions climatiques. Il y a en revanche du soleil à Melbourne, où il fait 29 degrés. Soleil aussi à Sydney, avec 27 degrés. Le ciel est bleu à Brisbane, avec 26 degrés. Et il fait, comme d'habitude, très chaud à Darwin, 34 degrés sous un soleil qui n'est caché par aucun nuage.
sbs.com.au